dimanche où nous étions absents. Donc nous bénissons notre Dieu pour sa grâce envers vous, envers nous. Et nous remercions pour la possibilité que nous avons encore d'ouvrir sa parole. J'aimerais vous poser une question. Alors, j'attends de vous une réponse. Êtes-vous heureux?
Oui.
Êtes-vous heureux?
Oui.
Amen. Oui. Alors, peut-être certains n'ont pas pu dire cela avec conviction. Peut-être que certains ont hésité et dans une fraction de seconde se sont posé cette question, mais au fait, est-ce que je suis heureux? Et n'ont pas pu donner une réponse. Et j'aimerais le dire et vous dire que ceux qui mettent leur foi en Jésus sont heureux. Alors ce n'est pas Tony Avril qui le dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit lorsqu'il a parlé à cette foule sur le serment sur la montagne. Et la dernière fois où j'ai pu partager la parole avec vous, nous avions vu le texte de Luc chapitre 6 où le Seigneur, justement, après avoir choisi ses apôtres parmi les disciples, il est descendu avec eux et se tourne envers ses disciples, les autres qui étaient là aussi, mais aussi il y avait cette foule, et il leur dit « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Et Matthieu dit « Heureux, vous les pauvres en esprit », pour signifier que ce sont tous ceux qui reconnaissent leurs besoins de Jésus, tous ceux qui font preuve d'humilité comme ces enfants qui reconnaissent qu'ils ont besoin de leurs parents pour pouvoir être aidés, accompagnés, les parents pour subvenir à leurs besoins. Et de la même manière, on a besoin de Dieu pour tout. Alors le Seigneur Jésus dit à vous qui reconnaissez votre besoin et que vous mettiez votre confiance en moi, alors le royaume de Dieu est à vous, donc vous êtes heureux. Et il leur dit, heureux aussi lorsqu'on va vous, pour ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui seront persécutés, ceux dont le nom sera outragé. Alors tout ça à cause de mon nom, à cause du Fils de l'homme, alors vous êtes heureux parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous serez dans la joie, vous serez rassasiés, etc. Donc, oui, le chrétien est heureux et j'aimerais que nous puissions repartir avec cette pensée. Alors oui, merci Seigneur, parce que je peux dire que je suis heureux parce que je te connais. Et si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, ou si vous l'avez fait, mais finalement vous vous êtes éloigné de lui et que vous n'avez pas cette assurance, alors vous pouvez repartir avec cette pensée et dire, voilà, le Seigneur m'a rappelé que je suis heureux alors que je pensais être le plus malheureux des hommes. Alors on sait qu'on est heureux parce qu'on a mis notre confiance en Jésus, mais au quotidien, dans la vie de tous les jours, on peut avoir ce sentiment finalement de ne pas être heureux. Et que cette parole de Jésus, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux, est une assurance. Mais en même temps, à cause des circonstances de la vie, à cause aussi des choix aussi que nous pouvons faire, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas heureux. C'est plutôt la tristesse qui envahit notre cœur. Nos pensées s'éloignent de Dieu. Et la question pour nous ce matin, ce serait de voir ensemble comment, au quotidien, jouir de la grâce de Dieu pour que, quelles que soient les situations, les circonstances, sachant que L'Éternel est notre berger, sachant que nous sommes le troupeau de son pâturage, qui suivons notre maître et qui celui qui pourvoit. Et donc, quelle que soit la situation, sachant que ce berger, il est là, nous pouvons dire nous sommes heureux et nous pouvons être dans la joie réellement, malgré les situations difficiles. Et dans le psaume 1, le psalmiste, il affirme que l'homme peut être heureux et peut trouver de la satisfaction dans ce qu'il fait et dans ce qu'il a au présent. À chaque instant, il peut dire qu'il est heureux. Mais pour jouir de ce bonheur, il doit se trouver du côté du juste, de celui qui honore Dieu par sa foi et par sa conduite, pour être béni par Dieu et se laisser diriger par lui. Nous pouvons mettre notre confiance en Jésus-Christ, et à cause de ça, le Seigneur nous dit que nous sommes heureux. Mais si nous ne nous laissons pas conduire par Dieu, si nous ne mettons pas notre foi constamment en Dieu pour vivre comme Dieu nous le demande, nous ne pouvons pas vivre, nous ne vivons pas cette réalité qu'est le fait d'être heureux, d'être béni. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens passent à côté de cette grâce parce qu'ils font le choix de vivre leur vie comme bon leur semble, choisissent des voies dont ils savent que ce n'est pas la voie du Seigneur, et puis arrivent à ce constat de dire finalement je ne suis pas heureux. Et donc ce n'est pas comme ça que le Seigneur le veut. Alors j'aimerais vous inviter à lire ce psaume, le psaume 1, où le psalmiste donne justement la condition du bonheur. Si on veut être heureux et si on veut vivre ce bonheur au quotidien, il y a des conditions qu'il faut accepter, qu'il faut vivre. Et le psalmiste dit, le psaume chapitre 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Donc ce psaume commence par ce terme « heureux » ou « béni hein, »,« bienheureux ». Donc ça nous fait tout de suite penser aux paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne, comme je le disais dans Luc chapitre 6, versets 20 à 26, ou Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Être heureux, c'est trouver en Dieu la joie et le contentement indépendamment des situations que l'on vit au présent. Le psaume 2, verset 12 dit « Heureux tous ceux qui se confient en lui », en parlant du Fils. Le psaume 34, verset 9 « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Alors, le psalmiste donne là les conditions du bonheur. Il compare la voie du juste à celle du méchant. Il montre que selon la voie qui est choisie, la destinée n'est pas la même. Il dit au verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le Seigneur connaît la voie des justes. Moïse, il a expliqué, il a dit au peuple d'Israël que viendra le temps où Dieu allait leur envoyer un prophète comme lui, et il dit au peuple, alors écoutez-le. Dans Deutéronome chapitre 18 et dans Actes chapitre 3, lorsque l'apôtre Pierre il prêche la parole, dans Actes 3, l'apôtre Pierre dit clairement que Jésus est ce prophète dont Moïse avait parlé. Donc Moïse avait dit, écoutez ce prophète. Et dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre parle du Seigneur Jésus et d'autres comme Ananias, ils disent que Jésus, donc le prophète dont avait parlé Moïse, il est en fait le juste par excellence. Dans Actes 3, verset 14, Pierre dit, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrir. » Jésus est le saint et le juste. Dans Actes 22, c'est Ananias qui dit à l'apôtre Paul, à Paul qui venait tout juste d'accepter Jésus-Christ, et dans Actes 22, l'apôtre Paul donne son témoignage. Ananias dit à Paul, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, donc Jésus-Christ, et à entendre les paroles de sa bouche. » Alors, ça s'est passé lorsque, sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qui lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Et Ananias dit que Dieu a destiné Paul à rencontrer, à connaître sa volonté, à rencontrer le juste Jésus-Christ. Alors, et c'est pour ça que l'apôtre Paul, entendant que c'est Jésus le juste, lui, le prophète dont avait parlé Moïse, il a écouté. Et la Bible nous dit que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont déclarés justes par Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, ou étant donc déclarés justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque le psalmiste, il parle des justes, il parle de ceux qui ont foi en Dieu. Et lorsqu'il parle des méchants, des pécheurs, c'est de ceux qui n'ont pas foi en Dieu et qui ne marchent pas selon Dieu. Et donc, le juste, d'après le verset 1 de ce psaume, on peut le définir comme étant celui qui suit les conseils et les mises en garde de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est celui qui suit les conseils et les mises en garde de Dieu. C'est aussi, d'après ce verset 2, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà, on peut définir ce juste-là comme étant celui qui fait attention aux mises en garde que lui adresse Dieu et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et les premiers chrétiens, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui ont été donc déclarés justes, alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont écouté le conseil de Dieu car ils ont cru que Jésus donc, était ce prophète qui avait été annoncé. Mais ils ont aussi trouvé ils ont aussi trouvé leur plaisir dans la loi de l'Éternel, puisque au chapitre 2 dans des Actes, il est dit que ces chrétiens, ces premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, hein, ils étaient assidus au temple, etc. Et ils trouvaient leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le Seigneur, l'Éternel, il dit en Malachie, Malachie chapitre 3, verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. » Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc Malachie, le Seigneur dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu, donc le juste, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors est-ce que dans nos vies, ceux qui nous entourent voient la différence? Est-ce que lorsque l'on nous voit, lorsqu'on parle de nous, est-ce que les gens peuvent dire, mais il y a vraiment une différence dans sa manière d'être, sa manière de faire, sa manière de parler et la mienne? Et vous verrez la différence. Dieu veut que les autres voient la différence entre le juste et le méchant. Il n'y a pas de situation intermédiaire où on est entre les deux. C'est soit on est juste, soit on est méchant. Et on doit voir la différence. Et le chrétien donc, qui a été déclaré juste doit montrer la différence. Et si nous montrons la différence, il y a toutes les raisons pour que nous puissions dire « Je suis heureux. » Parce que là, je suis différent. Et si je pense que imiter les méchants, c'est ça qui va me rendre heureux, eh bien alors là, je suis malheureux. Et c'est ce que le texte le dit. Dieu veut que nous montrions la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc si nous voulons jouir pleinement du bonheur que nous avons d'être en Jésus-Christ et jouir de toutes les bénédictions que nous avons en lui, donc nous sommes encouragés à montrer par notre vie de chaque jour la différence entre le juste et le méchant. Et nous pouvons montrer cette différence en ayant une vie qui soit différente de celle du monde. C'est ce que je m'ai souligné à partir de ce verset 1. Nous pouvons montrer notre différence en ayant une vie qui soit différente de celle du monde. Le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils, le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il y a donc une description des non-croyants qui est faite là. Les non-croyants sont décrits donc, de plusieurs manières. Ils sont appelés les méchants, ceux qui font le mal, les criminels. Ils sont appelés des pécheurs, ceux qui transgressent la loi de Dieu. Ils sont appelés des moqueurs, ennemis de Dieu, qui se moquent de Dieu et de sa parole. Voilà plusieurs termes pour définir le non-croyant, celui qui rejette Dieu. Et pour être heureux, l'homme doit se mettre du côté du juste et décider d'être en désaccord avec la pensée et la manière de vivre des gens du monde. Donc choisissons également de ne pas nous associer à ce qu'ils font et ne pas rester en leur compagnie lorsque ce qui est fait n'est pas à la gloire de Dieu. Et ça, c'est une décision que chacun doit prendre. Si on dit qu'on est juste parce que Dieu nous déclare juste et donc nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas nous associer avec ceux du monde pour faire comme ils font. Et nous voyons que plus nous avançons dans le temps, au lieu que l'Église montre sa différence, l'Église a tendance à chercher à s'associer avec ceux du monde pour, soi-disant, plus de fraternité, etc. Je parle de l'Église en tant qu'entité, mais individuellement, nous sommes mis en garde par rapport à cela. Lorsque, à l'école, en tant que jeune, y a ceux qui font le mal, ceux qui, on parle d'harcèlement à l'école par exemple, et que je suis dans le groupe où on harcèle un tel, alors que je dis que je suis chrétien, là il y a un problème. Si je me moque d'un tel parce qu'il est comme ci ou parce qu'elle est comme ça, alors c'est pas comme ça que Dieu veut que nous vivions. Lorsqu'au travail, on se moque d'un collègue ou on cherche à rabaisser un collègue et que finalement on est avec ceux qui pratiquent ou qui agissent comme ça, quelle est la différence? Comment montrons-nous cette différence entre le juste et le méchant? Et malheureusement, nous, plus nous avançons, plus nous avons cette tendance à être avec le méchant, être avec les gens du monde, nous conformer à leur façon de faire, alors que finalement le Seigneur nous demande non, il faut prendre position, il faut dire non. Il ne faut pas te mettre, il ne faut pas marcher avec, il ne faut pas accompagner, il ne faut même pas s'arrêter, il ne faut pas, il est dit, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assieds pas en compagnie des moqueurs. Lorsque dans les églises on dit, voilà, il faut prier avec un tel ou un tel, quelles que soient les différences, on va à l'encontre de ce psaume chapitre 1. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, dit, examinez, Éphésiens 5, verset 10 à 13, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Vous voyez, donc, c'est l'enseignement qui est donné dans le Nouveau Testament. Il faut prendre le temps d'examiner les choses et se décider de ne point prendre part aux œuvres des ténèbres, à tout ce qui est mal, il faut dire non. Et malheureusement, il arrive que des personnes qui se disent chrétiennes se privent des bénédictions de Dieu à cause de leur choix délibéré de vivre comme bon leur semble. Et ces chrétiens sont malheureux, car ils trouvent plus de plaisir à être avec les méchants, à être avec les pécheurs ou avec les moqueurs, que d'être avec ceux qui cherchent à honorer le Seigneur d'un cœur pur. Et donc cela doit nous questionner, nous faire réfléchir aussi par rapport à nos choix. Si je dis que je suis juste, je dois prendre position. Et dans l'apôtre Jean, dans 1 Jean, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors la première des choses, pour montrer notre différence, c'est justement avoir une vie qui soit différente de celle du monde, accepter d'être différent des autres. L'autre chose, c'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, versets 2 à 3. Donc pour faire ce choix de vie, pour avoir la force de résister aux tentations, de dire non à toute pratique qui est condamnée par Dieu, par nous-mêmes, on ne le peut pas, parce que nous sommes des pécheurs. Ce n'est que nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu, étant remplis de l'Esprit de Dieu, que nous aurons la force de prendre position pour dire non au mal, pour dire non à telle ou telle chose. Et c'est en ça qu'il faut se décider, là aussi, de passer du temps dans la parole de Dieu. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Donc le Seigneur nous donne des ressources pour nous aider à montrer notre différence, et il nous a laissé sa parole. Et si on ne se décide pas à donner à la parole de Dieu toute la place dans notre vie pour la lire, la méditer, l'étudier, nous n'aurons pas les ressources nécessaires. L'Esprit de Dieu ne pourra pas agir en nous, nous conduire, pour que lorsque nous sommes face à une situation, savoir quelle décision prendre et avoir la force pour dire non et rejeter ce qui est mal. Donc, on doit faire le choix de donner à Dieu la première place aussi, et cela se voit dans le plaisir que nous trouvons à lire la parole de Dieu, à l'étudier. Et c'est parce que nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel que nous pouvons nous distinguer des autres. Et ce qui motive notre décision, c'est l'amour pour la parole de Dieu, pour la loi de l'Éternel. On trouve du plaisir parce qu'on reconnaît qu'on en a besoin, parce que c'est la nourriture de l'âme. Et le psaume 73, le psalmiste s'est dit que sur la terre, il ne prend plaisir qu'en Dieu. Il ne prend plaisir qu'en Dieu. Alors qu'il examinait les méchants qui réussissaient, etc. Et puis, il commençait à avoir des mauvaises pensées. Mais lorsqu'il est revenu à lui-même et à réfléchir, mais il a dit non, c'est pas possible. Sur la terre, il ne prend plaisir qu'en Dieu. Et cette prise de position vis-à-vis du monde est donc en fonction de notre attachement à la parole de Dieu. Le juste, il est dit, médite la parole en prenant le temps de la réflexion dans le but de l'appliquer dans sa vie. Il faut lire la parole de Dieu, on peut se fixer des objectifs de lire la parole de Dieu pour avoir une certaine connaissance de la parole, c'est bien. Mais il faut aussi prendre ce temps où on va s'arrêter sur un passage et se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce passage? Qu'est-ce que Dieu m'apprend? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans cette réflexion pour apprendre à mieux connaître Dieu, apprendre ce qu'il attend de nous aussi, nous qui sommes déclarés justes, et puis laisser cette parole nous transformer par l'action du Saint-Esprit. La parole de Dieu doit être lue, méditée assidûment. Et c'est ce que Dieu conseille à Josué dans Josué chapitre 1. Alors, on peut lire ensemble ce passage. Alors, Josué, c'est le successeur de Moïse. Alors, le Seigneur a dit à Moïse que ce ne sera pas lui qui va faire entrer le peuple dans le pays promis. Donc, ça sera Josué. Et donc Josué a besoin d'être encouragé, et le Seigneur s'adresse à lui. On peut lire à partir du verset à partir du verset 6. Il dit, fortifie-toi, Josué chapitre 1, verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, est-ce que Dieu est un menteur? Non. Alors, Dieu, il dit à Josué, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu prendras possession du pays. Est-ce que Josué, il a pris possession du pays? Ah oui, puisque Dieu était avec lui. Alors, quand on lit le livre de Josué, on voit qu'à un moment, il n'a pas pris le temps de consulter l'Éternel. Et c'est les Gabaronites qui étaient juste à côté, ils ont fait croire qu'ils venaient de très très loin avec du pain rassis, des vêtements déchirés, etc. Et puis, Josué et les anciens ont pris la décision d'épargner ce peuple-là. Et là, c'était un échec. Et ils ont eu les conséquences après. Mais Josué, et à la fin, il dit, quand il est à la fin de sa vie, il dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça a toujours été ça, sa ligne de conduite, sa décision, c'est de toujours servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est là la clé de la réussite. C'est pour cela qu'il a réussi, qu'il a eu ses victoires. C'est parce qu'il avait décidé de servir l'Éternel. Alors le psalmiste, il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le juste, lorsqu'on trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, donc là, le texte nous dit qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui est profondément donc enraciné, quelqu'un qui est solide, qui résiste lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a des moments difficiles. Comme il est bien enraciné, il tient bon lorsque la tempête est là. Il puise sa force, sa vitalité dans la parole de Dieu. Et le texte qu'on a lu ce matin dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, verset 21, l'apôtre Paul, justement, il prie pour ça. Il prie qu'on soit puissamment, il est dit, enraciné et fondé, voilà, dans le Seigneur, par son esprit. Il dit aussi que lorsqu'on trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, non seulement on est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, mais il donne, il dit, son fruit en sa saison. Donc là, c'est l'image de la fertilité. Il a une vie fructueuse. Mais pour cela, il doit rester près de la source. Il doit rester près de cette source. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, il le dit à ses disciples. Il dit, moi, je suis le cep, vous les sarments. Si vous demeurez en moi, comme moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le Seigneur Jésus dit à ses disciples, vous devez rester attachés, vous devez être avec moi, vous devez demeurer en moi pour porter du fruit. Il donne son fruit en sa saison. Et l'autre expression qu'il utilisait pour montrer tous les bénéfices à trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, il dit que son feuillage ne se flétrit pas. C'est là encore l'image de la vitalité que connaît le fidèle, comme Jérémie, il le dit dans Jérémie chapitre 17, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Donc, le Seigneur, il veut qu'on porte du fruit. Mais est-ce que nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel? Après, il dit, tout ce qu'il fait lui réussit, dans le sens que, puisque nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel, nous la lisons, nous la méditons, nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous voulons rester dans ses voies. Lorsque Dieu dit que ce n'est pas bien, on ne dit pas que c'est bien, on le reconnaît, on confesse, et on a à cœur de rester dans la voie de Dieu. Alors, on accomplit la volonté de Dieu. Et lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, on réussit. Et même dans les épreuves, le Seigneur nous donne aussi la force pour pouvoir nous en sortir, comme il est dit dans 1 Corinthiens 10. Voilà. Et dans Romains 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu donne la réussite. Le Seigneur Jésus-Christ, il est allé jusqu'à la croix, mais la réussite, Dieu lui a donné parce que Dieu l'a ressuscité. Et Dieu lui a donné des frères et des sœurs. Dieu lui a donné l'Église. Et donc, c'est, l'Église est le symbole même, la preuve même de la réussite du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous promet la réussite dans ce que nous entreprenons. L'échec n'est pas un signe de manque de spiritualité. La souffrance, ce n'est pas une punition non plus. Ça fait partie de la vie. C'est les moyens que Dieu utilise dans sa souveraineté pour nous aider à grandir, pour nous reprendre, pour nous corriger aussi. Quelqu'un disait que la réussite n'est pas fonction du bien-être matériel. Il suffit donc de considérer l'exemple de Job. Job avait tout, mais après il a tout perdu. Et à la fin, il a tout récupéré. Ce qui est une réussite est ce qui repose sur Dieu. Lorsqu'on médite la parole, lorsque nous prenons le temps de trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel, nous avons une meilleure connaissance de la volonté de Dieu. Donc la réussite est assurée lorsqu'on accomplit cette volonté. Le psaume 37 dit que « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce que ton cœur désire, si on trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ce que le cœur désire, c'est faire la volonté de son Seigneur. Puisqu'on fait de l'Éternel nos délices. Et il donne et il bénit. Donc la réussite est d'abord spirituelle et peut être suivie d'une prospérité matérielle. Mais la prospérité matérielle n'est pas la preuve de la réussite. La réussite n'est pas toujours immédiate et apparente, malgré les difficultés que l'on peut connaître. Ces difficultés sont parfois nécessaires pour un succès plus complet. Comme il est dit en Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, donc cette réussite se voit dans le bien qu'on a tiré de la situation qu'on a connue. Et puis pour terminer, nous pouvons montrer notre différence, non seulement en ayant une vie différente des inconvertis, en trouvant notre plaisir dans la loi de l'Éternel, mais aussi en sachant quel est le sort qui est réservé aux méchants. Dans les versets 4 à 5, il dit « Il n'en est pas ainsi des méchants ». Ils sont comme la paille que le vent dissipe, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc là, le méchant, il est décrit comme étant la paille que le vent dissipe. Il n'a aucune stabilité dans sa vie, et c'est pour ça qu'il est toujours insatisfait. Il veut toujours plus, il n'est jamais satisfait. Et ces personnes sont caractérisées par l'insécurité et l'inconstance dans leur vie, car ils ne s'appuient sur rien. Et s'il n'y a pas de repentance, le méchant ira dans le séjour des morts, puisque la paille est destinée à être brûlée. Dans Malachie chapitre 4, verset 1, il dit car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Donc le méchant ne résiste pas, il est dit, au jour du jugement. Ce jugement, il est présent, mais aussi à venir. Dans Jean chapitre 3, verset 18, le Seigneur dit que celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le texte nous dit aussi que le méchant est exclu de l'assemblée des justes. L'assemblée des justes, c'est le peuple de Dieu. Pour montrer aussi que il y a le juste dans sa singularité, mais le juste est vu aussi en termes d'assemblée. Et là, c'est encore là une image de l'Église qui est donnée. Voilà, l'assemblée des justes. Et lorsque on est juste, on ne reste pas seul. Lorsque on est juste, lorsqu'on a mis sa foi en Jésus, on a été déclaré juste, on comprend, on le reconnaît qu'on a besoin d'être dans l'assemblée des justes. Donc, le fait d'être là encore ce matin, c'est bien. Parce que c'est là que vous devez être. Il dit, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le psaume 37, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. On a lu le texte de Jean chapitre 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. L'apôtre Paul dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc là, il y a donc cette mise en garde qui nous invite à nous regarder au fait dans ce miroir qu'est la parole de Dieu et se poser cette question, qui suis-je? Est-ce que je suis ce juste? Ou est-ce que je suis encore dans le camp des méchants? Dans quel camp je me trouve? Est-ce le camp des justes ou est-ce le camp des méchants? Est-ce que je fais partie de l'assemblée des justes ou pas? Et je me reconnais dans le juste, alors je sais que mon bonheur aussi dépend du fait de cette décision que je vais prendre, de dire voilà quelle voie je vais choisir. Est-ce la voie des justes ou est-ce que la voie des méchants? Je sais que quand on est jeune, c'est vraiment les moments où on est face à ces questions fondamentales. Et même lorsque nos jeunes qui grandissent parmi nous, qui grandissent dans des familles chrétiennes, ils sont face à ces décisions, de dire voilà, quel chemin vais-je choisir? Alors, vous jeunes enfants, que ce texte, que vous puissiez le méditer personnellement, et que vous puissiez vous poser la question, mais au fait, pour ma vie, quelle voie vais-je choisir? Et pas seulement les jeunes et les enfants, pour nous tous, est-ce que nous voulons rester dans la voie des justes ou nous laisser entraîner pour être sur la voie des pécheurs? Donc que le Seigneur nous aide. Pour être heureux dans la vie, nous devons clairement avoir une vie différente de celle des non-croyants. Ne cherchons pas à leur ressembler, mais soyons au contraire, comme la parole nous dit, la lumière qui brille dans ce monde de ténèbres. Trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel, en la lisant, en la méditant régulièrement, et comme faisaient ces premiers chrétiens. Et faisons cela, en faisant cela, nous aurons donc une vie fructueuse, il est dit, une vie et une destinée distincte de celle des méchants, mais aussi l'assurance d'être connu de Dieu, et nous ne serons pas confus lorsque nous nous retrouverons en sa présence. Parce que dans la parabole, le Seigneur fait la séparation entre les brebis et les boucs. Et les brebis, ce sont celles qui rentrent dans le royaume, et les boucs, ce sont ceux qui seront jetés dans les temps de feu. Donc il y aura une séparation. Il n'y aura pas de chemin intermédiaire. Il n'y aura pas d'autre possibilité. Maintenant, c'est à chacun de s'examiner devant le Seigneur et de dire, en fait, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Le Seigneur dit que si vous voulez être heureux, alors vous devez être déclaré juste, donc mettre votre foi en Jésus-Christ et trouver votre plaisir dans la loi de l'Éternel pour apprendre à connaître Dieu, savoir qu'est-ce qu'il attend de nous, comment avoir une vie qui l'honore. Et puis, il nous promet la réussite dans ce que nous faisons. Et nous trouvons en lui toute notre joie, puisque nous avons tout pleinement en lui. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous aide à avoir une vie qui nous distingue de la vie des autres.